Mémoire vive,
présenté par Antoine Mercier
et préparé par Rachel Rimer, une émission de RCJ avec la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Bonjour, la Fondation pour la mémoire de la Shoah qui apporte son soutien à un ambitieux projet porté par la société de production Mémoire Magnétique. Il s'agit de dresser un tableau aussi complet que possible des situations familiales et personnelles des Tziganes avant, pendant et après la Deuxième Guerre mondiale. Le destin des Tziganes fut en de nombreux points parallèle à celui des Juifs. Ils subirent l'internement, le travail forcé, beaucoup furent assassinés, des milliers d'entre eux furent tués dans les camps de concentration. Sur le million de Tziganes qui vivaient en Europe avant-guerre, la moitié aurait été tuée donc pendant la guerre. Un génocide que l'on dit parfois oublié, auquel participèrent d'ailleurs de nombreux pays, dont la France de Vichy, qui dès octobre 40 les plaça en camp d'internement, un placement qui fut facilité par une loi qui date de 1912, on reparlera de cet aspect historique, qui avait ordonné leur fichage comme nomades. Et on est ce dimanche donc pour parler des Tziganes en compagnie d'Henriette Asseo, qui est historienne, spécialiste de l'histoire des Tziganes en Europe, professeure à l'EHESS. Bonjour madame.
Bonjour.
Alors vous êtes naturellement associée à cette campagne dont je parlais, de collecte de témoignages, qui devrait se dérouler sur plusieurs années. On parle d'une période de 3 ans. Comment se présente cette initiative? Évidemment, j'imagine beaucoup de difficultés pour retrouver ces personnes qui témoigneraient.
Oui. Alors, cette campagne a été mise en œuvre par un réalisateur producteur, Éric Darmon, et une réalisatrice, Juliette Jourdan. Et ils ont fait appel à moi pour la partie scientifique que je conduirai avec Michael Stewart, qui est professeur à l'Université de Londres et spécialiste de l'anthropologie des Tziganes d'Europe, et Catherine Cocchio, que vous connaissez peut-être pour son travail admirable sur l'enfant et le génocide, professeur de littérature comparée. Et ce comité est sous le haut patronage de Simone Veil. Alors, le but est de couvrir le champ le plus large européen, en allant vite, parce que malheureusement, l'espérance de vie des Tziganes est nettement inférieure à la nôtre, elle est de 10 ans inférieure, pour combler un vide qui est celui de l'histoire et de la mémoire. L'objectif est de que ces campagnes se développent pays par pays à partir d'une expertise qui est effectuée localement et qui repose sur tout un réseau d'historiens, mais aussi d'intervenants de toutes sortes, que j'avais déjà mis en place dans un projet antérieur qui a donné lieu à la publication de 3 ouvrages à l'Université du Hertfordshire et qui était commandé par le Conseil de l'Europe. Donc nous ne partons pas de rien.
Et vous connaissez par ailleurs, les personnes,
voilà, vous, oui, voilà. Nous avons un réseau qui permet ensuite d'approcher et de contacter alors des gens de statut et de conditions extrêmement différentes. Et c'est cela l'intérêt de ce type de témoignage, c'est qu'il est profondément complémentaire de l'ensemble des campagnes de témoignage qui avaient été effectuées pour les Juifs et auxquelles d'ailleurs pour une partie j'avais participé avec Annette Viviorca pour la campagne concernant la section Fortunoff de Yale.
Voilà. Alors, on peut peut-être, puisqu'on en parle tout de suite, aborder la question qui pourrait fâcher. Génocide des Juifs, génocide des Tziganes, est-ce qu'on peut, est-ce qu'il faut les comparer, Henriette Asseo?
Alors, le problème, c'est que l'historien est toujours mal à l'aise devant cette notion de génocide qui a été imposée par une perspective juridique qui consistait à établir une catégorie juridique qui permettait de punir le mal absolu qu'a été effectivement l'expérience de l'extermination pendant la Deuxième Guerre mondiale. La comparaison entre la définition quantitative des génocides, évidemment, ne convient pas en l'occurrence. Dans le cas des Juifs, ce qui frappe, c'est l'urgence qui a été effectuée à procéder à une extermination familiale conduite jusqu'aux plus lointains confins de l'Europe occupée et satellite. Alors, cette observation concernant l'urgence et la rapidité et l'intensité de l'extermination des Juifs est différente en ce qui concerne les Tziganes. Pour les Tziganes, nous dirons qu'il y a, et bien entendu, génocide, car il y a extermination familiale. Mais que le paradoxe de ce génocide, c'est qu'il a été conduit avec plus de précision et plus d'investigation individualisée et familiale, d'expertise familiale, que les Juifs.
Comment on peut expliquer cette différence?
Alors, on l'explique parce que les Tziganes sont, pour les nazis, une population européenne de sang indo-européen. Et on ne peut pas on fait une erreur véritablement extrêmement grave si on ne comprend pas la logique interne de l'univers mental dans lequel fonctionnaient les experts de la race allemande. L'objectif donc était, en ce qui concerne les Tziganes, de purger la nation germanique au sens très large du terme, c'est-à-dire comprenant aussi toutes les zones de recolonisation européenne qu'ils envisageaient dans le cadre de ce Reich de 1000 ans qui aurait dû nous occuper encore à l'heure actuelle. Eh bien, donc, dans cet esprit-là, le tri interne de la société allemande et des sociétés germaniques autour devait s'opérer sur une base qui était le tri médical et l'euthanasie, qui a été conduite jusqu'à la guerre, jusqu'à la fin de la guerre. Contrairement à ce qu'on dit souvent, les actions T4 ont été secrètement conduites jusqu'à la fin de la guerre. Et puis le tri que l'on appelle d'un vaste ensemble, que l'on catégorise sous le mot terriblement décrié, ce qui explique le problème des Tziganes, de asocial, mais qui était, pour les Tziganes, un ensemble de politiques raciales. C'est-à-dire, dans ce vaste ensemble de nettoyage social et biologique que les nazis envisageaient sur leur propre folk, sur leur propre corps social, ils consacraient une expertise et une volonté d'extermination familiale aux Tziganes. Donc d'abord aux Tziganes allemands.
Mais en tant qu'asocial, en tant que nomade,
non,
en tant que
non,
quoi
non, pas du tout en tant qu'asocial, pas du tout en tant que nomade. Leur visée, qui était héritière de la criminologie biologique et de ce qu'on appelle la Ziegener politique, était une visée raciale. C'était l'expertise raciale et elle portait sur l'ensemble de la famille. Donc, ceci veut dire les enfants compris. Or, dans le cas des asociaux, les enfants, la famille asociale n'est pas touchée. Les internements des asociaux se font sur des cas individuels. Ça peut concerner des jeunes, hein, par exemple les camps de rétention de jeunes qui ont été ouverts à Moringen, mais ce sont des cas individuels. Ici, vous avez un changement d'échelle, et c'est ce changement d'échelle qui vous fait passer d'une volonté liquidatrice individuelle à une volonté liquidatrice familiale qui amène donc au génocide.
Vous dites politique raciale, du point de vue nazi, c'était un peu la même chose pour les juifs.
Voilà. Non, mais sur ce plan, oui.
C'est ça, sur ce plan, il y a
sur différence. Ce plan, sur la logique, de la volonté d'extirpation familiale, de telle façon qu'il ne reste même pas la mémoire d'une culture où que la descendance physiologique ne puisse en aucun cas pouvoir se reproduire, là, il y a communauté de destin.
L'histoire de la persécution des Tziganes remonte bien avant la guerre. Je disais tout à l'heure, en juillet 1912, en France, la Chambre des députés vote une loi imposant aux nomades des papiers d'identité spéciaux qui comportent notamment une fiche anthropométrique. On retrouve l'obsession donc de la race, ce qui impliqua aussi une violence verbale accrue à leur égard, virulence nouvelle, ce qu'on appelait alors le fléau des campagnes. En Allemagne, par exemple, la volonté affichée de procéder à l'extirpation des Tziganes de la nation biologique allemande dont vous venez de parler, fut à l'heure du jour avant l'arrivée des nazis au pouvoir. Alors, quand est-ce qu'a commencé ce processus et quelle fut finalement la logique à l'œuvre?
Alors, ça, c'est le phénomène qui doit interpeller n'importe quel citoyen actuel conscient des désordres provoqués par les mutations politiques et la crise économique actuelle. C'est le fait que les Tziganes, ou ce qu'on appelle la politique tzigane, c'est-à-dire un phénomène étrange qui veut qu'à un moment donné, toutes les nations d'Europe entreprennent de procéder, mettre en place un régime administratif d'exception à l'égard de leurs concitoyens, d'une catégorie de concitoyens. Donc, il faut casser déjà une image qui est trop répandue du tzigane nomade qui se jouerait des frontières et qui serait un éternel étranger de l'extérieur ou de l'intérieur. Non, ces familles étaient parfaitement intégrées au tissu, sans doute rural, mais aussi urbain, des économies et des sociétés européennes. Elles étaient d'autant mieux intégrées que, je rappelle qu'en Europe centrale, elles n'ont jamais été nomades. C'était, l'Europe centrale était étoilée de ce qu'on appelle des colonies ou des villages tziganes, qui étaient là depuis le Moyen-Âge, qui avaient été assignés dans un statut de subordination dans les cadres, le cadre seigneurial traditionnel et ensuite modernisé, et qui n'avait rien à voir avec des nomades.
Il y a eu
toute chose égale d'ailleurs, bien sûr, comme vous avez eu en Italie dernièrement un recensement des campi di nomadi, il y a eu entre 1910 et 1930 la construction d'une catégorie administrative dont la fonction était une fonction de surveillance à l'intérieur de chaque nation et une fonction d'expulsion à l'extérieur de ces nations. Et ces catégories administratives ont pris des noms différents, mais en France, elles se sont appelées nomades. Elles comprenaient donc les bohémiens français, de nationalité française depuis le XVIe siècle et qui ont été obligés de prendre des papiers qui les faisaient sortir de la citoyenneté pleine et entière.
Ce que vous appelez constitution d'un ennemi intérieur.
Alors, ils ont été constitués en une catégorie administrative et ce processus de dénationalisation de fait, d'apatridité de fait, explique que quand la guerre est déclarée, toutes les nations d'Europe peuvent entreprendre, afficher une politique de persécution délibérée. En France, cette persécution s'est traduite par l'application rapide et précipitée par les préfectures et par les gendarmeries d'un ordre allemand qui était un simple ordre oral et qui évidemment demandait l'internement des, ce que les Allemands appelaient, Zigeuner, qui a été traduit en français par nomade du carnet anthropométrique. Ce qui explique que dans les camps d'internement, Montreuil-Bellé, Barenton et d'autres, ce sont des familles françaises, enfants compris, qui ont été internées et qui ne furent libérées qu'en 1946.
Effectivement, c'est fascinant de voir que tout ce processus se passe au niveau européen, dans chaque pays, avec des procédures différentes, des désignations différentes. 1 million de tziganes, donc en Europe, à peu près, disons, avant-guerre. Est-ce qu'on possède une idée précise de la manière dont ils ont été exterminés ?
Alors, l'extermination,
une partie d'entre eux, évidemment.
L'extermination a été radicale, absolue. Elle est à hauteur de 90% de la population d'avant-guerre. Elle visait systématiquement la famille complète, les enfants compris, dans l'ensemble de ce qu'on appelle le Grand Reich, qui comprenait l'Allemagne, l'Autriche, la Bohême, qui comprenait la Belgique, les Pays-Bas et le nord de la France, le nord et Pas-de-Calais. Ici a été appliqué ce qu'on appelle le Schwiss-Erlass, qui est un décret d'Himmler, demandant le transfert des tziganes et des demi-tziganes, des couples mixtes, à Auschwitz. Et il y avait à Auschwitz un Ziegenlager de triste mémoire, de sinistre mémoire, qui a compris plus d'une vingtaine de milliers de personnes, qui a été décimé définitivement dans la nuit du 2 au 3 août par un gazage des derniers survivants, 2400 personnes. Ouais. Il y eut 6000 enfants dans le Ziegenlager.
Je vais toujours poser une question peut-être idiote, mais pourquoi, du point de vue allemand, il y avait cette séparation des tziganes, du camp de tziganes, des camps des
parce
autres
que, Parce que c'est même la preuve même de la volonté raciale. C'est-à-dire que leur rassembler sans tri sur la rampe, la famille entière, était placée sous le regard de la SS la possibilité de continuer à expertiser sur un plan racial les tziganes, même quand ils étaient internés. Ceci vous explique que le docteur Mengele, de très sinistre mémoire, ait demandé à devenir médecin-chef à Auschwitz pour pouvoir travailler au Ziegenerlager. L'expérimentation médicale dans toute son atrocité à l'égard des jumeaux, des enfants, qui a été conduite contre les juifs, bien sûr, et contre les tziganes, prend toute son explication si on prend en compte cette volonté de percer à travers les tziganes le secret de la race indo-européenne.
Bon, tout ça est assez fascinant quand on entend expliquer aussi précisément par vous, Henriette Asseo. On est obligé de passer à la suite, après-guerre. Les événements concernant les tziganes ont été considérés d'une façon peut-être différente que d'autres persécutions.
Après-guerre, il faut rappeler aussi qu'il y a eu des exécutions et une liquidation assez violente aussi sur tous les territoires à l'Est. Noyés littéralement dans l'immense masse de la liquidation par les Einsatzgruppen des millions de Juifs. Donc, vous avez une mémoire qui ne pouvait pas advenir après-guerre, pour une raison simple, c'est que le responsable, l'architecte du génocide des Tziganes, est le directeur du RKPA, c'est-à-dire de la police criminelle, qui avait autrefois été le directeur d'Interpol. Donc, cet homme, Arthur Nöbbe, a participé à l'attentat contre Hitler. Il a donc été exécuté. Il n'est donc pas présent à Nuremberg. Et le caractère génocidaire, l'action génocidaire de la police intégrée au RSHA, c'est-à-dire à l'office central chargé des déportations et dirigé par Himmler, n'a pas été pris véritablement en compte. Donc, après-guerre, les tribunaux allemands ont eu beau jeu de reprendre la rhétorique des associaux. Et ils ont convié, comme experts en matière tzigane, les anciens experts raciaux qui avaient travaillé pour Himmler et qui ont continué une carrière universitaire avec ce qu'on appelait à l'époque leur certificat persi parce qu'ils lavent plus blanc.
Évidemment, on ne va pas passer toutes les étapes après
la guerre. La grande rupture dans la mémoire, elle est venue de l'Allemagne, elle est venue de l'action des tziganes allemands, et elle est venue de cette conjoncture de 1970-73 où une certaine jeunesse allemande découvre que ses propres professeurs ont été nazis. Et c'est l'ouverture donc des actions contre les médecins et l'ouverture des actions contre les experts en sciences raciales qui ont permis de mettre à jour l'ampleur du fichage par millions et puis la perpétuation de cette terrible haine administrative à l'égard d'une population qui ne met en danger aucunement la sécurité publique.
Alors, on en vient aujourd'hui, en quelques mots, développement des études aujourd'hui sur le sujet. On assiste à un renouvellement de la perspective.
Alors, on assiste à un renouvellement de la perspective qui est lié d'abord à la revalorisation, si on peut dire, du caractère racial de cette persécution, qui repose aussi sur l'action qui est menée par les leaders romani, en particulier auprès du Conseil de l'Europe et des institutions européennes, qui sont très actives sur ce plan. On voit aussi le rôle, par exemple, d'un organisme comme la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui a dans ses statuts aussi manifesté la volonté de s'intéresser au sort des tziganes. Et puis, surtout, sur un plan scientifique, c'est l'ouverture des archives locales et la chute du mur de Berlin, qui a fait rentrer... Les archives de Moscou sont revenues, les archives d'Auschwitz sont revenues de Moscou, et tout ceci a fait rentrer dans la possibilité de l'enquête historique un matériau documentaire considérable et qui permet de montrer à quel point les stratégies exterminatrices qui ont été conduites en Europe dépassent de bien loin tout ce qui a pu être mené partout universellement dans le monde, et c'est une affaire intra-européenne. C'est ce que des Européens ont fait à d'autres Européens, qu'ils aient été juifs ou tziganes.
Quelle est, Henriette Asseo, pour terminer, l'actualité de la question tsigane en Europe?
L'actualité de la question, elle est malheureusement évidente. Dans une conjoncture où le trouble des nations, les identités nationales se trouvent confrontées à des problèmes d'implosion véritable. Ceci s'est passé à l'Est, maintenant c'est en train de se passer à l'Ouest. Les phénomènes de bouc émissaire sont constants et désormais, en Europe centrale, les Tziganes ont pris la place de l'ennemi de l'intérieur juif d'avant-guerre. En Europe occidentale, ils sont les boucs émissaires de l'incapacité à conduire et à installer une circulation intra-européenne régulée et consciente des droits et des devoirs de chacun.
Comment réagit l'Europe institutionnelle à ces questions?
L'Europe institutionnelle mène une action d'émancipation économique et sociale, mais en même temps, elle est incapable de concevoir précisément ce que doit être le rapport d'équilibre raisonné entre l'identité nationale et l'identité européenne. La situation des Tziganes est un reflet du désastre qu'est à l'heure actuelle la politique européenne en matière de possibilité de définition d'un véritable empire européen délimité par des frontières précises.
Vous pensez que, si on comprend bien, l'absence de frontières, y compris même de tarifs extérieurs communs au niveau économique, implique la
Malheureusement, l'historien sait très bien que le refus de prendre en compte les questions sociales et économiques, les questions politiques comme des questions de civilisation au sens plein du terme, aboutit effectivement à la montée d'un ostracisme de voisinage et donc relance la haine de voisinage qui a été au cœur de l'extermination du XXe siècle en Europe.
Est-ce qu'en une minute, je vais vous demander pourquoi personnellement, Henriette Asseo, vous êtes venue à vous occuper des Tziganes?
Je dois rappeler le souvenir de mon professeur qui était Robert Mandrou, qui avec Georges Duby a été l'un des inventeurs de l'histoire des mentalités. Et c'était donc dans l'esprit de comprendre la civilisation européenne à travers non pas ses marges, mais ce mystère au fond, qui est pourquoi juifs ou tziganes ont pu persister dans leur être à travers les siècles, tout en étant une partie parfaitement intégrée des sociétés européennes.
Merci beaucoup, Henriette Asseo, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes donc l'auteur notamment d'un livre intitulé « Les Tziganes, une destinée européenne », dont une nouvelle édition est récemment parue chez Gallimard. Et puis, alors, pour ceux que ça intéresse, vous conseillez un livre. Vous me dites c'est le plus sérieux sur la question.
L'un des rares livres sérieux qui a été publié en français. C'est Pierre Vidal-Naquet qui en avait demandé la publication. Günther Lévy, la persécution des Tziganes par les nazis.
Merci beaucoup, Henriette Asseo. Donc, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie aussi de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne, pour un nouveau numéro de Mémoire vive.